Dans quelques instants, un débat avec Maurice Rachus et Daniel Kupferstein sur les bals du 14 juillet 1953 à Paris. Donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce débat. Donc on est là pour parler du 14 juillet 1953, qui est une date qui est encore assez peu connue en France. À ma droite, il y a Maurice Rachus qui avait publié ce livre, 1953, un 14 juillet sanglant, qui est un livre qui est paru en 2003, qui est épuisé, qui est introuvable. Donc vous pouvez voir un exemplaire ici. Et puis à ma gauche, Daniel Kupferstein, qui est l'auteur d'un film documentaire.
On ne s'affronte pas. Hein.
Voilà.
À ma gauche, à ma droite. Il n'y a pas de match là.
Il n'y a pas de match, non. Qui est l'auteur d'un film documentaire qui s'intitule Les Bals du 14 juillet 1953, qui a été projeté il y a quelques heures au chapiteau Engels. Donc je vais leur passer la parole à l'un et à l'autre avant d'engager la discussion. On les remercie vivement d'être parmi nous pour évoquer cette date peu connue, oubliée, qui a été un massacre d'Algériens à Paris.
Bien, on y va. Bon. En décembre 1952, pardon, en décembre 2002, on m'a passé commande, c'est littéralement le mot, hein, d'un livre qui devait commémorer le 50e anniversaire du massacre d'Algériens à Paris. On me laissait peu de temps, j'ai dû faire ce bouquin en 3 ou 4 mois. Ce qui fait que, pour ceux qui ont vu le film ou qui le verront, la différence, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur des archives, moins sur des témoins parisiens et pas sur des Algériens que je n'ai pas pu rencontrer. Et ce n'était pas de la précipitation, c'était un travail acharné puisque j'ai compulsé toute la presse. Alors, en deux mots, hein, le 14 juillet 1953, il y a comme tous les ans depuis la libération, même depuis 1936, dans un défilé populaire du 14 juillet, organisé par la CGT et le PC, il y a les masses laborieuses, comme on dit, qui viennent rappeler la Grande Révolution française. Et en 1953, il y a un groupe très important de militants du MTLD, Triomphe de Liberté Démocratique Algérien, qui est dans le cortège. À l'époque, l'Algérie n'est pas encore en guerre. Tous les Algériens sont citoyens français, de seconde zone, mais citoyens français quand même. Et ils sont en ce cortège, peut-être 700, 800, peut-être 1000, mais très nombreux, très structurés, très organisés. Si vous voyez le film, vous verrez bien comment ça se passe. Et puis, la police ne supporte pas qu'on voie apparaître des portraits de Messaliadj, qui est le grand dirigeant nationaliste, entendre des slogans pour l'indépendance, voir des drapeaux algériens. Et au cours de l'après-midi, juste au moment où éclate un orage, les policiers, découtant que leur courage, ouvrent le feu et tuent 6 Algériens. Et un militant syndicaliste français, c'était la base de mon bouquin. Et j'ai à l'époque, en 2002, à l'époque c'était vraiment oublié, j'ai travaillé sur la presse de l'époque. Et pendant une petite semaine, ça a fait des pages entières dans de nombreux journaux, dans les hebdomadaires. Et puis j'ai consulté de très près le journal officiel sur les débats de l'Assemblée nationale, qui était quelque chose d'ignominieux, où on voyait les dirigeants de la droite française jusqu'à aller demander qu'on expulse les Algériens travaillant en France alors qu'ils sont citoyens français, d'autres demandant qu'on leur retire la nationalité française. C'était un peu le fond de ce débat. Et puis brusquement, la mémoire a été oubliée, on n'en a plus parlé. Ce bouquin est sorti en avril 2003. Oui. Et comment dire, il a eu un grand écho à l'époque, puisqu'il n'y a pas eu une ligne dans la presse pour mentionner sa sortie, y compris dans la presse de gauche. Et le 14 juillet 2003, j'avais appelé par Internet, par les réseaux sociaux, un rassemblement en place de la Nation, la même où avait eu lieu la fusillade. J'avais rencontré d'ailleurs la fille de Messaliach qui était là, mais nous étions, y compris les enfants et les chiens, comme dit quelqu'un de très intelligent, nous étions une trentaine. Non, j'oubliais les enfants, les femmes et les chiens. C'est ce que disent les braves gens. Et on était très très peu de monde. Et avec mon camarade de libération, Pierre Marcel, qui depuis a été plus ou moins licencié, on avait accroché un bouquet de roses rouges sur le bâtiment de l'Octroi, entre les colonnes de la place de la Nation. Donc c'est tombé dans l'oubli, à nouveau, puisque ce bouquin n'a eu aucun écho, qui n'a pas été chroniqué en la presse. Ce bouquin est tombé dans l'oubli. Et puis il a, d'une certaine manière, ressuscité avec une autre approche, documentaire plus différente, plus intéressante, grâce au film Daniel Kupferstein, qui est à mes côtés, un film qui est sorti il y a un an.
Merci Maurice. Donc je passe la parole à Daniel Kupferstein.
Bon, comment expliquer ? Je vais raconter ce que je raconte d'habitude avant la présentation du film. Bon, on est après, mais c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront un petit peu la démarche. Comme la plupart d'entre vous, je ne connaissais pas du tout, non seulement que les syndicats et partis de gauche manifestaient les 14 juillet, avant, c'est-à-dire il y a maintenant 7 ans, je crois. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des manifestations de gauche, on va dire, les 14 juillet. Je croyais qu'il y avait des défilés militaires. Et deux, je savais encore moins qu'il y avait eu 7 morts, 6 Algériens et un Français, un 14 juillet, place de la Nation. Donc, je l'ai appris un peu par hasard quand je faisais un film sur l'histoire du métro Charonne. Et c'est au cours d'une rencontre avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais je connais une autre histoire, etc. » Et puis je me souviens très bien que quand j'avais été le voir, j'ai été le voir au fin fond des Pyrénées, là, presque à la frontière espagnole, je me suis dit « Il va pas commencer à me raconter toute sa vie, je viens pour Charonne, il va pas commencer à me raconter les autres choses, etc. » Mais je l'ai quand même enregistré, son témoignage. Et puis après, j'étais très content d'arriver au but de mon voyage, enfin, quand je l'ai rencontré. Et on a parlé, en fait, du métro Charonne. Voilà, première étape. Deuxième étape, ce film sur Charonne, je le présente avant-première à Paris, de 200 personnes, tout ça, etc. Et j'invite et des témoins du métro Charonne et une historienne. Et l'historienne dit, à un moment au cours du débat qui a eu lieu après la projection, elle dit « Mais Daniel, il faudrait que tu fasses un autre film sur une manifestation inconnue, celle au métro, celle du 14 juillet 1953, place de la Nation, etc. » Et moi, donc, j'en avais vaguement entendu parler, comme je vous ai expliqué avec ce témoin, mais j'ai pas spécialement retenu cette histoire. Et puis, comme j'avais déjà fait un autre film sur les massacres du 17 octobre 61, ça faisait déjà deux films que j'ai fait, un sur le massacre du 17 octobre 61, un sur Charonne en février 62. Je me suis dit, et là j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit, bon, c'est bon, je ne vais pas devenir le spécialiste des massacres parisiens, j'ai d'autres sujets, je faisais un film sur le harcèlement à ce moment-là, etc. Donc j'ai fait rire toute la salle. Cela dit, à peu près 4 à 5 mois après, je ne sais pas pourquoi, ça a dû travailler pendant 4-5 mois dans mon inconscient. Je me suis réveillé et je me suis dit, mais c'est pas possible. Les témoins, l'histoire a 60 ans, bientôt 60 ans. Les témoins, les plus jeunes, ils doivent avoir 76, 70, les plus jeunes, 77, 70. J'ai dit, mais c'est maintenant qu'il faut le faire pour recueillir les témoins, parce que après on sait que la mémoire a disparu et les gens décèdent aussi. Donc du coup, il y avait une espèce d'urgence. Et à partir de ce jour-là, ce matin-là, j'ai pris la décision de mener cette enquête qui m'a pris 4 ans. C'est comme ça que j'ai découvert le livre, ce livre de Maurice. Voilà, qui, grâce à la librairie Point du Jour, m'en a fourni un exemplaire. Ils en ont plus, je vous le dis tout de suite. Il est pour l'instant épuisé. Peut-être qu'il va être réédité. J'ai rencontré Maurice, j'ai rencontré les deux historiens qui avaient écrit des chapitres de leur livre sur cette histoire. Il y en avait deux. Hein, c'est Emmanuel Blanchard qui était là hier. On m'a dit hier soir, il était là dans un débat. Et Daniel Tartakovsky, qui avait écrit... c'est elle qui a écrit le premier, un chapitre d'un de ses livres sur les manifestations de rue dans Paris de 1880 à nos jours. Alors, voilà. Et là-dessus, je suis rentré dans une longue, longue, longue enquête. J'ai bénéficié de l'aide d'une journaliste algérienne d'El Watan qui m'a passé une petite annonce dans le journal El Watan, gratuite. Et j'ai eu... j'avais laissé une adresse mail, j'avais laissé un contact téléphonique. Grâce à ça, j'ai eu plusieurs contacts algériens. Et donc, l'enquête, je l'ai menée comme ça, et en France, et en Algérie, après une longue période, et sans production, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu une production qui a voulu le financer, mais j'ai quand même fait le film qui a été présenté pour la première fois en juillet 2014, il y a un an. Maintenant, je ne sais pas quoi dire d'autre.
Peut-être que, juste avant de passer à la parole, peut-être que l'un d'entre vous pourrait dire en quelques mots ce qu'a été ce massacre.
Oui, j'ai quand même quelque chose à dire. Ce qui m'a motivé pour le faire, parce que je vous ai dit deux massacres, je ne vais pas en faire un troisième, il y a quelque chose qui, à mon avis, me paraît fondamental, pourquoi j'ai fait ce film. D'ailleurs, je pense que pour toi, il y a aussi un peu de ça. C'est un, ça s'est passé un 14 juillet. C'est pas c'est pas innocent. Un 14 juillet, les symboles de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et voilà comment ça s'est passé ce jour-là. On a tué cette personne et blessé par balle. Alors j'ai retrouvé le nombre pour l'instant, le nombre dans les archives de la police, c'est 43 blessés par balle. Tout ça en une demi-heure. Hein. Donc il y a eu 7 morts et 43 blessés par balle. Bon, vous voyez un peu donc le principe du 14 juillet. Ensuite, on n'était pas pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'avec les deux massacres d'octobre 61 et de février 62, un des arguments bidons, évidemment, mais un des arguments qui est invoqué par la police ou les institutions, c'est de dire « Ah oui, mais on était en pleine guerre d'Algérie, les Algériens, c'était nos ennemis, ils manifestaient, enfin, voilà, il y avait le bloc, etc. » Là, il n'y avait absolument pas du tout, il n'y avait pas du tout de guerre d'Algérie, donc il n'y avait pas de conflit ouvert, rien, etc. Donc il n'y avait pas la justification de cette guerre. Et le troisième, c'est qu'en plus, contrairement à Sharon, et au 17 octobre, évidemment, cette manifestation était autorisée, classique. C'était comme un 1er mai aujourd'hui. C'est comme un 1er mai aujourd'hui. Il faut imaginer la même chose. Hein. Un 1er mai, les manifestations, en gros, les Français au début, puis les cortèges des mouvements dits étrangers, parce qu'à l'époque, les Algériens, ils n'étaient pas étrangers. Mais bon, le mouvement nationaliste algérien du MTLD était en fin de cortège, un peu comme aujourd'hui, les Kurdes, les Turcs, les Sri Lankais, etc. Donc il faut s'imaginer une manif comme ça, tranquille, normale, naturelle, etc., et qui a terminé dans le sang et le drame. Voilà.
Oui, quand on m'a suggéré d'écrire ce livre fin 2002, mon premier objet a été de chercher des témoins. Et j'ai, un peu naïvement, mais j'ai bien fait, passé un communiqué à la rédaction de l'Humanité, sans espérer quelque réussite que ce soit, parce que pour nos staliniens de l'époque, j'étais quelqu'un de sulfureux, puisque j'avais été exclu du PC il y a bien longtemps. Et curieusement, ils ont passé mon annonce, et j'ai eu une douzaine de réponses de militants qui étaient là avec leur section ou de la CGT ou du PC, Place de la Nation. D'ailleurs, parmi mes témoins, il y a entre autres le frère aîné d'Alain Krivine, qui à l'époque était dirigeait une section du PC. Donc, j'ai pu travailler assez longuement et avec ces témoins. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette manifestation qui aura des résultats abominables, elle est dans le prolongement, finalement, du 1er mai 1945, où là, ce n'est pas la police, ce sont les dirigeants du PC qui dénoncent Mes Alliades et les gens du Parti du Peuple Algérien comme des complices des nazis. Ça s'est passé à la Chambre des députés après le 1er mai 1945. Et ça vient après les massacres de Sétif du 1945. Et c'est resté dans les mémoires aussi bien de l'administration coloniale que des militants algériens. Donc il y a une sorte de continuité qui nous conduit de cette répression lourde en Algérie, qui va se répercuter en France quelques années plus tard. Il faut également noter qu'en 1953, il y a quelques années déjà que le PC a dû quitter le gouvernement, et il y a ce qu'on appelle à l'époque les gouvernements de troisième force, où les socialistes se sont alliés avec une droite plus ou moins dure, et le premier ministre de l'époque, je crois que c'est Laniel, je ne suis pas sûr, hein. C'est Laniel, oui. Et c'est un été où il y a des conflits sociaux extraordinaires, où pendant tout le mois d'août, il n'y aura plus de postes, il n'y aura plus de trains, toute l'administration est en panne à cette époque. Et on sent que c'est une époque qui est lourde de conflits sociaux. Et la police est aux aguets, comme elle le sera un peu plus tard, moins durement avec les syndicats, mais la police est aux aguets et prête à faire feu si l'occasion s'en présente. Surtout si des bougnoules, entre guillemets, se permettent de brandir des drapeaux algériens et de demander l'indépendance.
Bon, ben merci pour cette présentation. Qui voudrait la parole ? Qui voudrait... Oui.
J'ai beaucoup apprécié ce film, d'autant plus que j'avais déjà vu le film sur Tomkevitch il y a 3 semaines à moi. C'est dans la même veine, c'est très belle qualité. Bon, passons pour les remerciements sur la qualité à la fois artistique et historique de votre travail. Une question simplement, il y en aurait d'autres, mais une question. C'est pas précisé, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une décision à l'échelle parisienne de la part de la police pour organiser la répression, ou est-ce que c'est un accident ou une bavure, comme vous évoquez souvent, camarade ?
Prendre le micro.
Je crois qu'on peut dire que ce sont des tirs d'impulsion, parce que entre guillemets, hein, si les Algériens, comme nous l'avons dit l'un et l'autre, sont à l'époque citoyens français, ce sont des citoyens de seconde zone. L'Algérie, c'est 3 départements français. Mais il y a 2 collèges pour les élections, donc ils sont traités tout à fait différemment. Et pour les policiers, pour nos policiers, dont à cette époque, la grande majorité était déjà en service à l'époque de Vichy, et on procédait à la chasse aux communistes, aux francs-maçons, aux juifs, à tous ceux qui marchaient de travers, eh bien, ils ont la mémoire longue et ils ont des méthodes qui n'ont pas changé. Donc, comme ils sont plutôt xénophobes et gentiment racistes, il n'y a pas de problème pour eux. Dès qu'on commence à mettre en cause leur idée de la démocratie, eh bien, vous savez, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, c'est un peu ça. Et puis, il se trouve, je sais pas, on ne le voit pas tellement dans le film, on voit la pluie, mais il semblerait que les premiers coups de feu aient éclaté avec l'orage également, et que ça a un peu énervé les flics.
Oui, alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que, malheureusement, il n'y a personne qui dit ouvertement, bien sûr, on a eu les ordres de tirer, il s'appelle machin, etc., on ne retrouve pas ça, voilà. Cela dit, on a quand même, dans les archives, on retrouve, bon, d'une manière, mettons, il y a eu 80 auditions de policiers sur 77... audition des policiers, c'est les Algériens qui ont chargé le cortège des manifestants. Et donc, ils ont légitime défense, ils ont répliqué, etc. Sauf 3 personnes qui disent quand même, à un moment, selon les ordres reçus, nous avons enlevé, pas tiré, hein, nous avons demandé de... On, selon les ordres reçus, on a enlevé les banderoles, portraits, etc., du cortège des Nord-Africains, comme on appelait à l'époque. Donc il y a trois personnes qui disent qu'il y a eu des ordres de demander de retirer ces portraits. Et je pense que la vraie compréhension de ce massacre important, elle ne vient pas dans l'ordre nommément de dire... tuez-les, mais un peu ce que vient de dire Maurice, c'est-à-dire ils ont pris la décision d'enlever les banderoles, les portraits, etc., parce que pour eux, quelque part, le drapeau nationaliste et les revendications, c'était insupportable. Et puis, quelque part, c'est évidemment des, entre guillemets, des bougnoules, des sous-hommes qui osent revendiquer l'égalité. Donc, ils les enlèvent. Les Algériens ne se laissent pas faire. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ils sont très nombreux, très remontés, très... ils veulent montrer leur force. Et les policiers n'étaient pas si nombreux que ça pour le faire. Donc, ils ripostent. Ils ne se laissent pas faire. Ils tapent. Donc, il y a un affrontement, une cogne entre eux. Et à ce moment-là, les policiers ont commencé à tirer. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que les policiers commencent à tirer. Les Algériens, une partie, se reculent. Mais il y en a d'autres qui reviennent, alors qu'on leur tire dessus, qui reviennent et qui vont... courser les flics, brûler deux quarts de flics. Et là, alors là, il y a une troisième vague de policiers qui arrive et qui ouvre complètement dans le tas. Et c'est là où Maurice Lureau, a priori le Français, qui lève les mains en l'air en disant halte au feu, etc. Il se prend une balle dans la tête. Et puis tous les autres, et probablement les 40 ou 50 personnes qui ont pris des balles. Voilà donc un peu le déchaînement. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'ordre de dire tuez-les. Mais c'est ce cheminement, on va dire, ce sentiment raciste, naturel, entre guillemets, de la part de ces policiers, en tous les cas, c'est plus simple de... Enfin, voilà, on règle les questions comme ça. À signaler quand même qu'au métro Charonne, qui est une manifestation des syndicats français, ils n'ont pas tué avec des balles, en tirant. Donc, c'est pas tout à fait... Voilà, ils n'ont pas tiré... Bon, il y en a 6 qui sont morts dans le métro étouffés, et il y en a 3 qui ont eu le crâne éclaté. Mais ils n'ont pas sorti les revolvers à ce moment-là. Alors que là, oui, parce que 43 blessés par balle, vous imaginez les autres balles qui sont parties ailleurs, etc. Voilà.
Ouais. Une question.
Bon ben. Tout d'abord, félicitations pour le film, parce que effectivement, moi, c'est une histoire que je ne connaissais pas. Pourtant, bon, je suis beaucoup ces affaires-là, quoi. Et là, je n'avais jamais entendu parler de ça.
Moi non plus.
Voilà. Bon, par rapport à la police, là, bon, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, parce que les policiers, les flics, ils soutiennent de toute façon. Ils se serrent les coudes. Et on l'a encore vu, là, dans le jugement scandaleux qu'il y a eu par le procès là, de Ziad Ebouna. Donc on l'a déjà vu à travers ça. Donc les flics se tiennent les coudes. Bon alors moi ce que j'ai remarqué là, le témoignage des deux flics là. Donc y en a un bon qui paraissait un peu moins dégueulasse que l'autre, parce qu'il disait apparemment qu'il avait tiré en l'air. Alors soit qu'il assume pas ce qu'il a fait, ou on ne sait pas s'il a réellement tiré en l'air. Ou s'il n'assume pas ce qu'il a fait. Parce que le deuxième, il a bien dit qu'il a tiré, comment dirais-je, à bout portant.
À l'horizontale.
Ça veut dire qu'il a tiré, quoi, à hauteur d'homme. Voilà. Donc, est-ce que le deuxième assume, hein? Parce que, a priori, le deuxième paraissait... je ne veux pas dire, je ne sais pas... Bon, ils n'étaient pas n'importe comment, l'un comme l'autre n'était pas sympathique. Mais le deuxième, il paraissait moins pire. Et en définitive, après, on s'aperçoit que c'est lui qui a tiré à tort tendu et que l'autre, il aurait tiré en l'air. Mais alors, peut-être qu'il a tiré en l'air ou il assume pas ses faits et gestes, quoi. Ça, on pourra jamais le savoir. Voilà. Et par ailleurs, je voudrais savoir quand est-ce... tu as dit que le film était sorti en 2014. Et où est-il sorti ?
Alors... pour la première question, sur les deux policiers, effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes. Mon sentiment, c'est que celui qui dit qu'il a tiré en l'air, je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il fait partie de ceux qui ont été affolés. Parce que, effectivement, il y a deux choses. D'une part, il rigole en voyant ses collègues tirer comme dans les westerns. Ça, c'est le premier truc. Mais en même temps, lui, il balance, c'est lui qui commence à balancer par rapport à l'histoire des douilles, hein, l'histoire des balles. Et puis, il affirme, il dit qu'il n'y avait pas eu de légitime défense. Donc, je pense qu'il est plus honnête. C'est-à-dire qu'il dit les choses, je pense, comme maintenant. Effectivement, je ne peux pas savoir. En plus, il est décédé maintenant. Donc, je ne peux pas savoir s'il a menti, pas menti, etc. Moi, j'aurais tendance à le croire parce que il avait l'air sincère sur l'ensemble du témoignage. Hein. Parce que, d'ailleurs, les deux me paraissent... voilà, des fois, ça fait un peu froid dans le dos, certains propos. Mais les deux me semblent assez honnêtes. Je ne sais pas pourquoi... Au fond, ils ont voulu accepter de témoigner. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont accepté et je crois qu'ils se sont livrés. Et effectivement, le deuxième, bah, il assume quand il dit qu'il a tiré qu'à l'horizontale comme ses collègues et il dit bah, il a tiré 9 balles sur 10. Bon, voilà. Voilà, il l'assume. Alors, entre parenthèses, les deux, j'ai retrouvé leur déposition, évidemment. D'ailleurs, je crois que je leur ai lu. Il y en a un qui dit que les manifestants, les premiers coups de feu venaient des manifestants, donc il a menti sciemment en 53. Et puis l'autre qui dit qu'il a été blessé aussi, enfin il était en état de légitime défense. Et qui, ah oui, l'autre il dit que celui qui dit qu'il a tiré en l'air, il a tiré à l'horizontale, il dit qu'il a tiré en l'air dans sa déposition de 53. Voilà. Mais quand je lui ai lu, il s'en souvenait plus. Voilà, maintenant, il avait l'air de dire la vérité. Alors, par rapport à la sortie du film, alors, j'ai dit, il y avait la projection, en fait, c'est l'avant-première. Depuis cette projection, je fais plusieurs projections un peu partout, quand on m'appelle généralement. Mais je suis en train d'écrire le livre du film, c'est-à-dire l'ensemble de la démarche sur les 4 ans, les rencontres, parce que vous imaginez que j'ai vu beaucoup plus de gens que ce qu'il y a dans le film. Donc, j'ai eu envie d'écrire ma démarche et mes difficultés pour faire ce film. Et donc, je suis en train d'écrire un livre et j'espère le finir très rapidement, d'ici 3-4 mois. Après, c'est un problème d'édition. Je ne sais pas comment ça va marcher. De manière à ce qu'on trouve une vraie diffusion et film et livre. Voilà. Donc, en fait, pour l'instant, il n'y a que des projections de films associatives, à la clé, voilà, dans les associations, etc. Voilà, un peu partout. Je vais un peu partout pour les voir, voilà, pour aller dans les débats. Mais il n'y a pas officiellement de distribution, etc. J'espère qu'elle aura lieu très bientôt. Voilà. Maurice, c'est le problème de beaucoup de films.
Maurice. Oui, un petit mot sur le mot honnêteté. Quand Daniel nous parle d'honnêteté, le problème, il n'est pas d'honnêteté ou de malhonnêteté, c'est que, enfin, c'est une conclusion que j'en ai tirée depuis longtemps, c'est qu'on ne devient pas policier impunément. On est bon pour toutes les missions qui vous sont commandées. Et sauf à désobéir aux ordres, on reste policier, sinon on est viré de l'institution. Donc, que ce soit en février 34, le 9 février 34, quand à feu de salve, les policiers parisiens abattent 7 ou 8 ouvriers parisiens près de la gare de l'Est, soit c'est l'occupation nazie quand il y a la chasse dont j'ai parlé tout à l'heure, soit dans les manifestations qui vont suivre la guerre, il y a toujours, ben, je pense aux grandes grèves des mineurs et des dockers en 47-48, où les CRS tirent, il y a toujours où la tentation, où l'idée ne vient pas de refuser les ordres. Alors, il est dit dans le code de déontologie de la police que certains ordres peuvent être discutés, mais les policiers discutent surtout de leur qualité, de la qualité de leur équipement, de leurs conditions de travail. Est-ce que le commissaire s'en sente la pisse parce que le bureau est tout près des chiottes? Non, c'est ça qui les intéresse plus particulièrement. Les questions de déontologie policière, ça les fait rigoler beaucoup plus qu'autre chose.
Hein. Il y a une question.
Oui, merci. J'ai vu ton film tout à l'heure. J'ai appris, même au bout de 50 ans de vie militante, j'ai appris, je ne savais pas. Et j'ai adhéré au PC en 63, tu vois. Et en 63, c'était quoi, 8-9 ans après. On parlait des copains morts, la résistance, les fusillés, etc. Mais pas du camarade de la CGT et du PC qui avait été tué. Et là, j'ai été ému par le témoignage de son fils, hein, qui dit en substance, chaque 14 juillet, je pense que mon père, il a été une seconde fois assassiné quand je lis l'Humain ou l'Humain Dimanche et que je vois rien sur sa mort. Alors, je voulais savoir si depuis ton bouquin et depuis ton film, si pour la CGT, je crois que je pourrais répondre, je suis pas passé au travers, je sais qu'il n'y a rien, mais pour le parti, pour le PC, est-ce que maintenant il y a une évolution? Est-ce que, par exemple, je sais pas, à la fête de l'Humain de l'année prochaine, on peut espérer qu'il fasse écho à ce que tu dis? Parce qu'on comprend bien les raisons politiques pour lesquelles en 53, en 54 et après, vu que le décès du militant était lié à la guerre d'indépendance et qu'ils étaient dans les faits contre l'Algérie algérienne, il ne faut pas raconter l'histoire, bah, il est passé à la trappe pour ces raisons-là. Depuis, bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, ils ont quand même un peu évolué. Et est-ce que jusqu'à ce jour-là, tu as eu des ouvertures de ce point de vue-là? Tu as vu un changement de comportement ou est-ce que tu en espères? Voilà.
Alors, je voulais juste, avant de répondre à cette question, je voulais juste finir par rapport à l'histoire de la police. Le fameux policier qui dit « j'ai tiré à l'horizontale », à la fin de l'interview, il dit, il raconte cette histoire. Je me suis dit, si je la mets, on va dire que ça va faire trop. Il raconte cette histoire, il dit « on faisait chier notre chef à chaque fois dans le car parce qu'on l'emmerdait. Et à chaque fois, on lui disait « quand est-ce qu'on a les mitraillettes pour leur tirer dessus ?» Et il se marre. Voilà, pour vous donner l'ambiance. Et je me suis dit, bon, déjà, c'est déjà lourd ce qu'il raconte. Je me suis dit, si je leur rajoute encore une couche, voilà. Mais enfin, c'est vrai, il m'a raconté ça en disant, donc il assumait complètement. En tous les cas, lui, il assumait l'histoire comme ça. Alors, par rapport à l'oubli, à mon avis, en France, le 27 juillet 53 ou le 26 juillet 53, il n'y a plus rien dans la presse, définitivement, sauf 4 courriers de lecteurs, dont un qui a été lu par Maurice Lureau, donc c'est le courrier de son frère, et qu'il a repassé quelques années après. Il y a eu une autre personne dans un courrier des lecteurs qui a reparlé aussi un petit peu brièvement de cette histoire. Et il y a une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Marc Fraisse, qui est dans mon film, qui lui aussi a envoyé un courrier des lecteurs dans l'Humanité, donc depuis 2013, qui est passé après dans le courrier des lecteurs en mai ou juin 2013. Mais en 2013 comme en 2014, au moment du mois de juillet, il n'y a pas eu d'article sur le 14 juillet 53. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de contact particulier. On m'a pas. Bon, j'ai pas spécialement envoyé non plus. Hein. Quand je fais des projections, j'invite largement, et dedans il y a des militants du Parti communiste, et des journalistes de l'Humanité. Donc voilà, je pense que s'ils veulent, ils peuvent savoir. Et puis il y a plusieurs articles de presse qui sont parus quand même depuis. Donc notamment dans le monde diplomatique. Il y a plusieurs articles. Et donc voilà, si on veut, on peut. Suffit de taper 14 juillet 53, on arrive à trouver. Voilà. C'est un long processus de mémoire. Toi, tu disais que pendant ton livre, il n'y a eu aucune presse. Voilà, pas de ligne. Voilà, il sort un livre, il n'y a pas une ligne dans la presse. Voilà. Donc, on est vraiment dans un vrai problème. Alors, par rapport aux explications, pourquoi? Moi, j'ai des vagues explications pourquoi il y a un oubli réel. Côté algérien, le MTLD se déchire en deux à la fin de... Enfin, ils étaient déjà déchirés, hein, en 53. Voilà, il y avait déjà une lutte terrible au sein du MTLD. Le mouvement se sépare puisqu'il y a ceux qui lancent le 1er novembre 54 et le mouvement se déchire complètement et plus personne, comme on peut le voir dans mon film, plus personne ne revendique cette histoire parce que ça s'est passé avant. Et pour les Algériens, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avant, un petit peu maintenant, Sétif, Kirata, Guelma, etc., un petit peu, mais voilà, un tout petit peu seulement, tout ça, c'est pas reconnu. Donc, ces morts-là, alors en plus, ils défilaient avec Messali Hadj, qui est devenu l'ennemi du FLN. Du coup, voilà. Donc, c'est, pour l'instant, c'est encore à l'oubli. Cela dit, j'ai passé mon film. Il y a eu des articles de presse, quand même. Hein. Donc, là aussi, la mémoire revient un petit peu, etc. Côté français, bah, les seuls réels, la seule force de l'époque à pouvoir entretenir cette mémoire et rappeler les morts, etc., ça devait être le Parti communiste français et la CGT, qui étaient très liés, même organisationnellement. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose énorme, ce que tu as rappelé, c'est les grandes grèves du mois d'août 53, c'est-à-dire 15 jours après, il y a la plus grande grève dans la fonction publique qui a paralysé toute la France. Et l'ensemble du mouvement communiste et ouvrier s'est plongé dans cette grève. Et une des raisons qu'on m'a donné, que Daniel Tartakovsky m'a donné, c'est que le Parti communiste français a critiqué la période d'avant de 52, 51, 50, qui était dans une période dirigée par André Marty, qui était qualifié comme l'aile gauche du Parti communiste, avec cette conception de classe contre classe, violente, que toutes les manifestations devaient se terminer d'une manière violente. Et ils ont autocritiqué, enfin, ils ont critiqué cette position, viré André Marty, accusé de flic, etc., alors que c'était quand même le numéro 2 du PCF, hein, à l'époque, et changé de ligne avec une ligne plus ouverte autour des syndicats, autour de FO, la CFTC, etc. Et juste 15 jours après, il y a les faits concrets qui officialisent leur nouvelle ligne, on va dire. La ligne a changé 6 mois avant. Hein. Donc du coup, il rentre dans son truc. Personnellement, j'ajouterais aussi autre chose, c'est que le 6 Algériens, c'est pas si français. Je pense que ça joue. Voilà. Voilà, voilà. Alors, dernier petit truc, par rapport à la CGT, j'étais à la maison des métallos CGT, on m'a donné quelques contacts, mais il n'y avait pratiquement rien sur des contacts d'anciens, mais il n'y avait pratiquement rien sur Maurice Lureau. Il ne le connaissait pas spécialement. Et chose pire à mes yeux, c'est qu'ils ont fait un catalogue. Il y a un catalogue de la Maison des Métallos sur le rôle de la Fédération pendant la guerre d'Algérie. Donc ça commence au 1er novembre 54. Donc dans ma tête, je me dis, c'est normal, ça commence au 1er novembre 54, donc il n'y a pas le 14 juillet 53. Mais à la fin, il y a une chronologie des principaux événements. Et puis je regarde, donc ça démarre à 1830, la colonisation. Et je tombe sur une ligne, donc juste derrière, il y a marqué 14 juillet 1953. Je dis super, au moins, voilà, on va trouver. Et je vois 2 points, 7 Algériens morts. C'est-à-dire, on est dans le syndicat, parce qu'il était trésorier du métallo du 18e, il a disparu, y compris dans son propre syndicat. J'ai trouvé ça assez terrible. Voilà, personnellement, je trouve que l'histoire de la mémoire, enfin le travail de mémoire est terrible, parce que c'était un de leurs militants quand même. Donc ça, voilà.
Oui, j'ai dit tout à l'heure que quand ce bouquin est sorti, il n'y a pas une ligne dans la presse. En revanche, j'ai reçu un abondant courrier de la famille Lureau. J'ai des lettres des fils qui me racontent toutes les étapes de l'oubli et puis finalement de cette espèce de d'ignominie qui consiste à marginaliser un de leurs principaux militants de la métallurgie. Alors, pour ce qui concerne le comportement des communistes, parce qu'on voit dans le film, à un moment donné, à l'enterrement ou à la commémoration de l'enterrement d'une des victimes du 14 juillet 1953, un communiste algérien. Il m'a paru assez bizarre parce que il faut savoir que tout au long de la période de la colonisation, enfin tout au moins après la guerre surtout, ou même entre les deux guerres, le Parti communiste algérien, qui n'était pas très important, n'a eu de cesse que de réduire, d'interdire pratiquement s'il le pouvait, la parole des militants algériens, ceux du PPA par exemple. Il faut savoir que le PPA, il a été interdit et dissous sous Front Populaire par exemple. Des choses de ce genre où il y a, comment dire, volonté de ne pas laisser la parole à ceux des Algériens qui veulent l'indépendance. Et on peut expliquer le comportement du Parti communiste pendant cette période, parce que, par exemple, quand il y a des pages entières dans l'Humanité sur le 14 juillet 1953, il y a beaucoup de photos. Il n'y a pas une photo émanant d'un photographe de l'UMA qui a pris des clichés, il me les a montrés, avec les banderoles, avec les photos de Messali, parce que c'est pas dans l'air du temps. Et à l'époque, le problème du Parti communiste, on retrouve ça dans les discours d'Alger, quand Thorez appelait ça grande tournée d'Algérie juste avant la guerre, c'est que l'Algérie, ils ne disent pas c'est la France, mais le socialisme, entre guillemets, doit arriver en Algérie par l'intermédiaire et avec l'aide du grand frère français. Et ceux qui sont en Algérie, ils ne sont que des sous-ordres. C'est pour ça que finalement le PC combat plus ou moins farouchement le mouvement nationaliste algérien. Et on retrouve ça finalement dans le comportement de la presse à cette époque, de la presse communiste, et puis de manière assez dégueulasse, dans le comportement du PC et de la CGT par rapport à la famille Duro.
Une intervention, hein.
Oui, la position de Thorez à ce moment-là, c'est que l'Algérie est une nation en formation, donc qui n'a pas le droit à l'existence, à un État indépendant, etc. Il faut attendre qu'il soit formé sous la tutelle, comme tu le dis, du mouvement ouvrier, etc., etc. Et certainement les positions de Moscou, on ne développe pas, on a compris.
Ouais. Qui demande la parole ? Il y a encore... On a encore 10-15 minutes. Ouais.
Alors, j'avais déjà vu votre film sur Tom il y a 3 semaines. Ouais. Ouais, c'est un hasard, j'habite à côté, donc je suis venu. Et ce qui m'a touché dans votre film, c'est les témoignages. La façon dont vous avez retrouvé les témoins, ça n'a pas dû être facile, je pense, surtout pour la partie algérienne. Et parce qu'il y en a plusieurs qui disent que l'État algérien a mis un peu le silence dessus. Et j'ai hâte de lire votre livre sur comment vous avez retrouvé les témoins et tout. Voilà quoi.
Bah, pour ça, je peux vous le raconter. Je vous ai dit, essentiellement, c'est les petites annonces que j'ai passées dans El Watan et dans Alger Républicain. Voilà. C'est dans les deux journaux où on m'a passé des petites annonces avec une adresse mail et une adresse postale et un téléphone. Et donc, on m'a appelé ou on m'a envoyé des mails ou on m'a téléphoné, on m'a écrit, etc. Et donc, là-dessus, j'ai pu établir parce que j'avais, en fait, ce qui était bien, c'est que j'avais pu accéder aux archives, notamment de l'instruction. Et j'avais le nom des blessés qui avaient été interrogés par la police dans les hôpitaux, dont le juge n'a pas du tout tenu compte, hein, je le dis tout de suite. Mais il y avait quand même leur nom. Et puis, vous savez, c'est pareil comme ça que j'ai retrouvé les policiers. Il y a le nom, prénom, alors le grade pour les policiers, mais pour les manifestants, il y a leur lieu de naissance. Leur âge et leur lieu de naissance. Donc du coup, avec leur âge et leur lieu de naissance, j'ai pu envoyer la petite annonce en disant « Je recherche, est-ce que vous connaissez des gens ?» Donc j'avais toute une liste de gens. « Si vous les connaissez, contactez-moi, machin, etc. » Même 60 ans après, il y a des gens qui, voilà, j'ai retrouvé. Ceux que vous avez vus, voilà, c'est ceux que j'ai retrouvés. Et d'ailleurs, il y en a 4 qui sont décédés depuis, quand même. Ouais, ouais. Enfin, 3, puisqu'il y a le policier qui est un des policiers qui est décédé. Le plus sympa. voilà. Donc, c'est vrai que voilà, c'est la démarche essentielle. Hein. Après, c'est le bouche à oreille ou téléphone arabe qui fonctionne. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, même après le film, j'ai des gens qui m'ont appelé de famille qui me disaient j'ai vu sur Internet, parce que du coup, ça se reproduit, ça reste, etc. Il y a des gens qui disent vous recherchez monsieur machin, mais c'est mon père, il est décédé depuis 10 ans. Oui, il m'a vaguement parlé de cette histoire, etc. etc. Voilà. Vous voyez la mémoire, comment elle se reconstruit. Et puis, mais je pense que cette idée de, comme toi, avec cette annonce, je pense que c'est ça qui permet d'avoir beaucoup de témoins. Voilà, ça c'est important, quoi.
Qui voudrait la parole ? On a encore le temps pour une ou deux interventions.
Non.
Oui, j'ai retrouvé.
Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu la question.
Oui, alors la question c'est est-ce que j'ai retrouvé des camarades du MNA, donc le mouvement opposé au FLN, le mouvement nationaliste algérien de Messali Hadj. Oui, j'ai retrouvé des gens. D'abord, la plupart des militants FLN que j'ai rencontrés était au MNA en 54-55, et c'est à partir de 55 voire 56 qui passe au FLN. Bah non, mais de ceux que j'ai rencontrés, moi, je vous parle pas de tous. Voilà. Maintenant, j'ai rencontré aussi des gens du MNA qui sont restés MNA, qui ont eu des gros problèmes, qui vivent en Algérie. D'autres qui ne vivent pas en Algérie, qui vivent en France. J'ai pour l'instant moi, comme je rentrais pas dans cette histoire d'après, parce que c'est un film entier sur l'histoire du MNA et du FLN à faire, à mon avis. Il y a déjà eu un film de Malek Bensmaïl là-dessus. Mais je pense qu'il faut développer encore des films là-dessus. Mais bon, c'était pas mon sujet, donc voilà. Après, il se trouve que les témoins algériens, ceux qui sont restés, il y en a aucun du MNA, parce que leur discours, encore une fois, la difficulté, c'est 60 ans après. Voilà, y en a qui racontaient n'importe quoi, y en a qui confondaient les dates, y en a qui m'ont dit que la manifestation elle avait commencé à République, y en a qui m'ont dit qu'ils étaient qu'une centaine de manifestants algériens. Enfin voilà, c'est compliqué, hein, la mémoire. Donc et puis moi, il faut que je recoupe entre qu'est-ce que j'ai ? J'ai simplement Maurice qui a travaillé dessus, et puis les deux historiens, et puis j'ai rien d'autre, hein, à me mettre sous la main, quoi, pour contredire ou pas contredire les points de vue, quoi. L'histoire de... C'est sûr que... et puis alors, il y a des trucs étonnants. L'histoire de ce que tu racontais, il a plu. Il y en a plein qui l'avaient oublié. Donc je leur dis, mais on m'a dit qu'il a plu ce jour-là. Et d'un seul coup... La mémoire, je le vois en filmant, je vois que la mémoire revient, et les gens ils disent ah oui mon j'avais mes affaires trempées, il y avait le sang qui séchait. Voilà, je veux dire que les choses reviennent aussi comme ça petit à petit. Je vais quand même vous dire un petit truc, mais on l'a déjà soulevé par rapport à la police d'aujourd'hui, parce que il se trouve qu'au début du mois de janvier, j'ai lu un petit article dans Le Monde qui m'a renvoyé directement au film. Mais bon, il y a d'autres histoires, comme vous l'avez évoqué, là, avec le jugement dernier. Mais là, celui-là, il est un peu drôle, parce qu'il est presque ressemblant à mon film. Alors, je vous le lis. Un policier condamné pour avoir menti. Le titre, c'est « Justice ». Un policier de l'Essonne a été condamné en appel vendredi 16 janvier 2015 à 3 mois de prison avec sursis pour modification de l'état d'un crime ou d'un délit. Lors d'affrontements avec les habitants du quartier de la Grande Borne à Grigny, Essonne, en 2007, donc c'était jugé 8 ans après, le fonctionnaire qui avait tiré en direction d'un émeutier de 17 ans, s'apprêtant à lancer un cocktail Molotov, avait aussitôt ramassé 3 étuis de balles qu'il avait jetés dans les égouts et remplacé 3 balles dans le chargeur de son revolver, affirmant n'avoir tiré qu'à 3 reprises au lieu de 6. Il avait par la suite expliqué avoir maquillé la scène pour éviter des remontrances de sa hiérarchie voilà, et faire croire à un acte de légitime défense. Voilà. Donc ça s'est passé début janvier. Enfin, l'histoire date de 2007, mais c'est le jugement.
Juste un petit mot sur le comportement plus ou moins impulsif des policiers. Sans remonter à cette journée du 14 juillet 1953, il faut remarquer que nos policiers, sous la gauche comme sous la droite, et souvent beaucoup plus sous la gauche, sont armés, sinon surarmés, et qu'il n'y a pas besoin d'ordre de la hiérarchie pour voir que dans les manifestations, par exemple en soutien aux sans-papiers, des jeunes qui reçoivent des tirs de flashball ou de taser en plein visage, alors que c'est strictement interdit par le code de déontologie de la police, les tirs tendus, et qu'il y a régulièrement des tympans crevés, des yeux amochés, et c'est courant, et ça ne fait pas les grands titres de la presse, sauf quand il y a un procès à grand spectacle, et que c'est un comportement habituel et continuel de la police de sortir, leurs armes de dotation.
Il y avait une question ou une intervention ?
Oui, D'abord, merci pour ce très beau film. Je voulais savoir si ce film est vu en Algérie et comment va-t-il circuler.
S'il est vu. Bon, il est passé dans deux festivals. Bon, moi, j'ai envoyé à tous les témoins, j'ai envoyé la copie du DVD que je vends ici. Donc, eux, ils le font circuler entre eux. Voilà. Et puis, il est passé dans deux festivals. Il y a eu... quand je l'ai présenté au Centre culturel algérien à Paris. La télévision algérienne est venue, a fait un petit reportage, m'a interviewé. Enfin, on me l'a dit, je l'ai pas vu. Hein, mais et puis, quand il est passé dans le premier festival en novembre ou décembre, je sais plus, premier festival, enfin la première fois, il est passé dans un festival à Alger. La télévision aussi, enfin une chaîne de télévision, je sais pas laquelle, hein, est venue et a interviewé. J'y étais pas, hein, parce qu'ils m'ont invité deux jours avant. Donc c'est un peu court pour avoir les visas. J'étais pas, mais je sais que la télévision est venue et a fait un petit reportage sur cette histoire. J'ai eu des papiers, des articles dans la presse après, etc. Donc voilà, c'est des petites informations. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la mémoire sur cette histoire, enfin en Algérie en général, ça commence à dire les choses. On commence à dire les choses. C'est-à-dire que sur ces histoires, pendant longtemps, notamment sous l'ère boumédienne, c'était niette de chez niette. Et là, depuis quelques années, d'abord à la fois parce que les anciens combattants arrivent à l'aube de leur vie, commencent à écrire leur témoignages, leur raconte. Donc ils peuvent pas tout raconter, mais bon, ils balancent certaines choses quand même assez importantes. Et donc la mémoire commence à se mettre en place. Maintenant, il y a beaucoup beaucoup de boulot parce que à chaque fois que j'entends des choses, je me dis comme il y a eu énormément de règlements de compte au sein du FLN, que la mémoire va avoir du mal à sortir parce qu'il y a des icônes, on est dans la martyrologie, etc. Et puis il y a des trucs pas belles, qui sortent, quoi. Enfin, l'essentiel des finalement, quand on regarde, l'essentiel des dirigeants du FLN, ils ont été flingués, quoi. Pas entre eux, quoi. L'essentiel. Donc c'est un peu dur.
Bon, ben, s'il n'y a plus d'intervention, on va peut-être s'en tenir là. Peut-être donc indiquer d'une part que Daniel vend le DVD du documentaire 15 euros, voilà. Voilà. On peut aussi indiquer peut-être que le livre d'Emmanuel Blanchard, donc vous savez qu'il est un des historiens, interrogé dans le documentaire et qui a rédigé dans sa thèse un chapitre sur cette manifestation. Donc le livre issu de sa thèse consacré à la police française et aux Algériens entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie est en vente à la librairie du château. Et puis on peut remercier vivement Daniel Kupferstein et Maurice Rassus de leur présentation.
Je sais plus si vous avez fait un moi, je suis certainement. C'est dans les écoles de police, ils leur montraient.